concentrer sur ce que je fais là. Voilà. Et au verset 8 à 10, donc Ésaïe, chapitre 54, les versets 8 à 10. Nous voulons faire lecture donc de la parole de notre Dieu. Dans un débordement d'indignation, je t'avais un instant dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. Il en sera pour moi comme au jour de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'indigner contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'ébranleraient, quand les collines chancelleraient, ma bienveillance pour toi ne sera pas ébranlée et mon alliance de paix ne chancellera pas, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Prions. Seigneur, merci de si magnifiques promesses que tu nous donnes dans l'Ancien Testament avec la perspective du Nouveau Testament, que tu nous donnes dans ton alliance que tu fais avec ton peuple, dans une alliance dont nous sommes pleinement bénéficiaires aujourd'hui. Seigneur, puissions-nous saisir ces promesses en ce début d'année 2021 et que ce soit pour nous l'assise de cette année. Alors que le monde peut s'écrouler autour de nous, alors que toutes choses peuvent aller mal, nous pouvons nous asseoir sur l'assurance et la certitude que ta fidélité, que ton amour, que ta bienveillance, que ton alliance ne sera en rien ébranlée. Alors Seigneur, conduis-nous maintenant dans la compréhension de ta parole. Nous te le prions dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à reprendre place. Ça va. Je t'expliquerai. Je pense que certains parmi nous ici ont grandi avec ce petit cantique. Pour d'autres, c'est tout à fait nouveau. Mais je précise, avec ce petit cantique, qu'il n'est pas clair quand on le chante. Quand on dit quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines s'ébranleraient, chancelleraient, j'oublie déjà, et qu'on chante le refrain « Mon amour ne s'éloignera pas de toi ». Qu'on soit clair, la première personne ici, c'est Dieu. Ce n'est pas « Mon amour à moi qui ne s'éloignera pas », c'est Dieu, dans le contexte ici, qui dit « Alors même que les montagnes s'ébranleraient, trembleraient, mon amour, moi Dieu, ne s'éloignera pas de toi. » Alors évidemment, on peut répondre aussi, oui, nous aussi, notre amour ne s'éloignera pas de toi, mais c'est un petit peu ambigu dans le chant. Je pense que beaucoup de ceux qui l'ont chanté dans leur jeunesse ou dans leur moins jeunesse ont peut-être un peu l'esprit confus, mais je reviens un petit peu sur ce détail, juste pour en préciser le contexte. Alors oui, en ce début d'année 2021, je me suis dit que j'allais vous proposer cette... encore une fois, comme j'ai dit il y a quelque temps, ça ne va pas être un grand sermon très structuré, plus aller une parole d'envoi, une parole d'exhortation pour ce début d'année 2021, pour que nous puissions voir sur quoi on peut reposer nos vies dans la perspective de l'année qui est devant nous et dans le contexte dans lequel nous pouvons nous trouver ici. Alors, je pense que ceux qui me connaissent ici savaient combien j'affectionne les montagnes. Combien j'aime les montagnes. J'ai d'ailleurs failli vous montrer une diapo de ma montagne préférée. Mais la diapo, en fait, elle n'aurait pas dit grand-chose. Il faut être devant pour vraiment la voir là. Donc je vous invite à nous rejoindre à l'occasion dans les Alpes du Sud, du Valais suisse, où on a là les plus belles montagnes du monde. C'est peut-être pas votre avis, mais en tout cas, c'est le mien. Mais on est là environné d'extraordinaires glaciers et pics qui montent à 4000 mètres d'altitude. Et donc, moi, quand j'entends le mot « montagne », c'est ça qui me vient à l'esprit. Et je ne sais pas combien parmi vous avez côtoyé les montagnes. Allez, on va, c'est le premier dimanche, aujourd'hui, on est un peu relax ici. Qui n'a jamais vu les montagnes de près? Bon, tout le monde a vu les montagnes de près. Apparemment, hein, quand je posais la question, on pouvait lever une petite main pour dire « Est-ce qu'il y en a ici qui n'ont jamais vu de montagne de près ?» Et quand je dis montagne, je ne parle pas des petites collines, hein, je parle de montagne, vraie montagne. Tu n'as jamais vu ni les Alpes, ni les Pyrénées, ni les Landes, les Andes, d'accord. Alors il faut absolument qu'on pallie à ce manquement. Donc, désolé, tu ne vas peut-être pas saisir ce que je vais dire maintenant, mais qui parmi vous maintenant est allé au pied des montagnes? Et j'entends par pied des montagnes, c'est qu'on va en voiture le plus loin possible,
Et après, allez, on marche une bonne heure, allez, deux heures, et on est loin de tout, et on se retrouve, on sait qu'on a encore plusieurs heures à gravir, et que probablement on n'a pas les moyens techniques, il faut un guide ou autre chose, mais est-ce que quelques-uns parmi nous se sont trouvés déjà au pied de montagne, ou d'un massif de montagne? Ou plutôt, qui n'a jamais connu ça? Quelques-uns. Donc, j'entends par là que la majorité d'entre nous avons au moins fait un peu de randonnée. Hein? Donc, peut-être ce que je vais dire va vous dire quelque chose. Quand on se retrouve là, moi, mon moment favori, d'ailleurs, je le fais quand c'est possible, Paris, c'est un peu loin, mais quand c'est possible, c'est pour moi le plus grand moment de ressourcement. Si j'ai besoin d'être ressourcé, c'est ce que je fais. Donc, vous étonnez pas, c'est dans les mois qui viennent, vous m'entendez partir pour 2-3 jours. Mais pour moi, le meilleur, c'est de partir, de marcher 2-3 heures, même d'aller dans un refuge, ce qu'on appelle les refuges, de se trouver environné de montagnes. On est déjà à 2000-2005 mètres d'altitude, parfois 3000, et de se trouver environné des montagnes. Donc on est en altitude, l'air est différent, et on est devant de la grandeur, de la majesté, on dirait même de la noblesse. Être environné de montagnes ainsi nous donne un sentiment d'être au milieu de quelque chose d'absolument grandiose et féerique. On se sent être autre. On se sent vivre en extase. Je me souviens même de moments où j'étais dans les montagnes, la nuit tombant, voir la nuit tomber, et de voir non seulement ces montagnes qui restaient encore un peu présentes dans un coucher de soleil, mais de voir les étoiles là-dessus, de se dire, mais Seigneur, que tu es grand. Seigneur, combien ce monde est absolument prodigieux. Et le sentiment que cela nous donne, c'est un sentiment d'être dans un monde absolument inébranlable. Quelque chose qui associe la grandeur, la beauté, la solidité, la magnificence et la stabilité. On sent que rien ne peut être fait qui bougera quoi que ce soit. Ce n'est pas une petite avalanche ou quoi que ce soit qui changera les choses. La montagne est là et elle est belle et elle est splendide. La montagne peut être aussi, peut-être moins parmi nous ont connu cela, mais la montagne, tout en étant magnifique, peut être aussi terrifiante. Je ne sais pas combien parmi vous, peut-être, avez connu la montagne en temps d'orage. Si vous craignez l'orage dans la vallée, n'allez pas en montagne, parce que la montagne, un orage en montagne peut vraiment être effrayant. On peut entendre la foudre tomber à quelques mètres de soi. Parfois même, j'ai connu ça aussi. Et voilà, si vous n'êtes pas initié, je vous le dis, si vous voyez vos cheveux ou les cheveux de votre voisin ou votre voisine qui commencent à se lever, c'est très mauvais signe. Et il faut vite descendre, vite vous mettre dans un abri, pas un arbre, d'ailleurs il n'y en a pas dans ces endroits-là, mais ça veut dire que la foudre est prête à tomber et que l'électricité dans l'air est telle que même nos cheveux s'élèvent. On voit ça dans les films de science-fiction, mais je l'ai vu de mes yeux en montagne avec un groupe de jeunes et j'étais le seul à avoir fait un peu de montagne pour dire au groupe, on descend vite, on prend, enfin vite, sans courir, mais d'un pas assez ferme, on descend en altitude parce que la foudre est dans l'air et ça peut surprendre en quelques minutes. La montagne peut être magnifique et terrifiante, peut être pleine de majesté et hostile. On peut vivre une certaine hostilité dans la montagne parce que nous ne sommes pas faits pour vivre dans ce milieu. Plus il est haut, plus il est dangereux. Et entrer dans les montagnes ainsi, en tout cas c'est mon sentiment, j'ai l'impression d'entrer, de piétiner, de fouler la grandeur de Dieu et de me sentir un peu privilégié d'être là, de pouvoir marcher dans tant de grandeur, tant de choses qui nous dépassent complètement et qui font que on se dit, mais est-ce qu'on peut même être là? Est-ce qu'on peut même être en train d'y marcher ici? Mais on y voit là un privilège aussi parce qu'un rien, un rien peut nous mettre en danger. Partir trop vite, aller trop loin, être sous-équipé, ne pas regarder la météo, ou alors qu'on l'a regardé, se faire surprendre par la météo. Même des guides de montagne parfois meurent dans leurs actions de montagne parce qu'ils se sont fait eux-mêmes surprendre. La montagne peut être cette grandeur et à la fois cet extraordinaire danger. Mais Le point que je voulais faire ici, c'est de dire, dans ce que j'ai connu en montagne, et il y en a qui l'ont connu certainement bien plus que moi, j'aimerais faire plus, mais voilà, de mon vivant, je n'ai jamais vu la montagne s'ébranler. Je n'ai jamais vu la montagne en tant que telle s'ébranler. J'ai vu les éléments s'ébranler. J'ai fait évoquer les orages, j'ai connu les tempêtes, des tempêtes de neige même, le brouillard. Et croyez-moi, dans le brouillard et la tempête de neige en montagne, on n'emmène pas large parce qu'on se dit que le moindre faux pas nous perd et pourrait être pour nous la fin. Mais la montagne en tant que telle, je ne l'ai jamais vue s'ébranler. C'est tout un symbole de grandeur, de stabilité, de beauté et de respect. La montagne, ça se respecte. Ça se respecte parce que ne pas la respecter, c'est jouer un jeu dangereux. Eh bien, ceci pour poser la question. Quelles sont nos montagnes? Avons-nous des montagnes? C'est-à-dire, avons-nous quelque chose, quelqu'un, sur qui nous posons nos vies? En fait, je vais même aller un cran plus loin. Ça va ce matin? Si ça va, ça veut dire qu'on repose notre vie sur quelque chose qui nous stabilise. Si ça ne va pas, c'est qu'on est déstabilisé. Mais si ce matin on peut dire « ça va bien », c'est que nos vies reposent sur quelque chose. La question c'est sur quoi reposent nos vies? Sur quoi repose le fait que ce matin on puisse dire « ça va ». S'il y a quelque chose que l'on peut identifier pour dire ce matin « ça va », eh bien, on pourrait dire que cette chose qui nous stabilise, c'est notre montagne. La montagne sur laquelle on pose nos pieds. Ce qui fait qu'on s'assoit sur quelque chose de stable et d'inébranlable, en tout cas dans nos pensées, dans ce que nous croyons être inébranlable. Et combien de fois on voit des personnes qui ont fondé leur vie sur quelque chose qu'ils pensaient serait inébranlable, et alors que ça s'ébranle, ont l'impression de perdre totalement pied de l'existence. On voit ça pour une maison. On a encore eu récemment des inondations assez sérieuses. Et des personnes qui ont pensé investir toute leur vie dans leur maison, peut-être la maison même de leurs parents, de leurs grands-parents, ils ont peut-être entièrement refait, ils se sont dit « nous serons toujours dans cette maison, on y pose notre stabilité, on y pose notre confiance, on y pose notre avenir, on y pose même notre projet retraite et la vie de nos enfants plus tard, et voilà que la maison est emportée par une inondation. » Complètement déstabilisant. Parce que ce sur quoi on avait pensé poser notre stabilité n'est plus là. Pour d'autres, ce serait peut-être une carrière. On a investi dans une carrière. On a gagné des points dans cette carrière. On est reconnu dans cette carrière. On a fait des avancées, et puis peut-être même cette carrière est très sécurisante. On se dit, c'est garanti. C'est une bonne entreprise. Ça peut même être l'État. Et il n'y aura pas de chômage, il n'y aura pas de soucis. Et le mot est annoncé. Chômage, faillite. Et pour certains, on a l'impression que la montagne sur laquelle on était appuyé, on s'était dit, on a la garantie à vie. C'est une garantie telle que les banques nous donnent des prêts plus facilement, etc. Donc on est sûr de nous. Et ça s'écroule. Pour d'autres, ça serait la santé. Certains pensent être absolument invulnérables, surtout quand on est plus jeune. Quand on n'a pas connu la maladie, qu'on n'a pas connu l'accident, on se dit, mais je peux y aller, rien ne m'arrivera, en tout cas pas avant longtemps, donc je peux aller de l'avant, et là, grosse tuile. Je me souviens, j'ai peut-être évoqué cela à quelques-uns, mais le premier baptême chinois que j'ai eu le privilège de faire à Bordeaux. Un garçon brillant, d'ailleurs les étudiants chinois étaient généralement des étudiants brillants, envoyés, boursiers par leur pays, et qui est arrivé à Bordeaux, ébranlé, qui s'est converti. Je ne raconte pas toute l'histoire, si ça vous intéresse, je vous la raconterai, c'est une histoire magnifique. Mais à chaque fois que ce garçon nous donnait le témoignage de ce que Jésus-Christ a fait dans sa vie, il se souvenait d'un moment dans sa vie où pas sa montagne, mais son massif montagneux s'est ébranlé. Parce que ce garçon, comme beaucoup de garçons chinois, et beaucoup de garçons du monde d'ailleurs, ou de filles aussi, posait toute sa vie sur quelque chose de matériel. Intelligent, en bonne santé, reconnu par ses pairs, envoyé en France pour étudier, et le voilà donc parti avec une longue vie. Pour lui, la vie, ça voulait dire réussir ses études, gagner un bon travail, avoir une belle maison, avoir une belle femme. C'est comme ça qu'il le disait. Sauf qu'il apprend peu de temps avant son départ qu'il était atteint d'une maladie. Que cette maladie devait passer par une opération et qu'il y avait au moins 50% de chances que cette opération résulte par un handicap à vie. Et c'était frappant, j'ai rarement vu ça. Ce garçon, je suis sûr que s'il était là ce matin et qu'il nous raconterait sa vie, il aurait le même état d'âme. C'est qu'au moment où il arrive dans cette vie, il s'effondre littéralement dans un cri de désarroi. Mais c'était inouï de l'entendre hurler de douleur en revoyant la photo de sa vie qui s'écroulait complètement parce que sa montagne s'ébranlait. Et c'est là qu'il a dit, s'il y a un Dieu, où est-il ? Alors je raconte quand même la suite, parce que c'est le premier dimanche de l'année là. Ce garçon est arrivé à Bordeaux, peu de temps après avoir appris ça, et sachant qu'il avait quelques mois avant la dite opération. Il arrive à Bordeaux et il cherche Dieu, en se disant, si j'ai de l'espoir, ça sera dans Dieu. Et il rentre dans la cathédrale de Bordeaux. C'est lui qui le dit, hein, c'est pas moi. C'est lui qui le dit, il y a des témoins. Il rentre dans la cathédrale, Dieu n'est pas là. Il se fait aborder par des témoins de Jéhovah, puis il commence des études, il sait pas, et Dieu n'est pas là. Après, il attrape les mormons, et il dit, Dieu n'est pas là. Et il essaie ainsi de suite plusieurs choses, jusqu'à ce qu'il tombe sur une dame appelée Carole. Alors, c'est pas la mienne, pas Carole, mon épouse ici, mais c'était un petit peu comme, d'ailleurs, elle n'est pas là, je crois, une dame un peu comme Suzy, qui était là, qui travaillait auprès des étudiants, qui donnait toute sa vie, qui avait déjà une certaine avancée en âge, pas comme Suzy, elle est jeune, mais elle avait déjà son vécu, et elle était là, et elle évangélisait sur les campus, et donc, ce garçon rencontre cette Carole, commence des études bibliques, il vient au culte et puis là, il dit, Dieu est là. Ravi d'entendre ça. Hein. Et il se convertit et j'ai eu la joie et le privilège de le baptiser. Il y a plein d'autres histoires, je ne les passe ici. Mais c'est de dire, son monde s'est écroulé à la nouvelle que sa montagne allait plus être là. Quelles sont nos montagnes ? Quelles sont les montagnes de nos vies ? Qu'est-ce qui peut nous ébranler ce matin ? Et peut-être sommes-nous ébranlés ce matin ? Eh bien, en cette fin d'année 2020, et comme je l'ai dit tout à l'heure, la bonne nouvelle, telle que le métro de Paris a été rebaptisé, la bonne nouvelle, ce n'est pas que 2020 est terminé. La bonne nouvelle, c'est de se dire, si notre montagne sur laquelle nous nous appuyons n'est pas la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une montagne sur laquelle on peut poser nos vies et nous appuyer. On peut vivre cette transition avec beaucoup de remises en question. Et en France, on a des remises en question. Il y a quelques années en arrière, j'étais aux États-Unis et les gens me questionnaient sur l'état d'âme des Français et pourquoi les Français ne vont pas plus à l'église, par exemple. C'est pas évident de répondre à cela parce qu'on n'est pas dans la peau des Français. On sait que pour beaucoup de gens, l'église est vraiment un accessoire. Et je me souviens particulièrement de quelqu'un qui m'avait posé la question après l'attentat terroriste à New York des tours jumelles. Et de dire, mais après cet événement, les églises de New York se sont remplies. Et donc quelqu'un qui a dit, mais est-ce que ça se passerait en France ? J'ai dit, je ne pense pas. J'ai dit, je ne pense pas parce que dans la pensée française, la religion est la source du problème. Et l'histoire des tours en est un exemple. C'est une affaire religieuse qui fait qu'on vit des attentats. Donc, ce n'est pas forcément ça qui va faire. Mais ce qui se passe en France, quand même, c'est intéressant. Hein, on va voir s'il faut couper les micros à un moment. Là. Mais ce qui se passe en France est intéressant. C'est que, dites-moi si je me trompe à la sortie tout à l'heure, hein, mais il se passe en France quand même que dans l'ensemble, alors même que des choses comme ça se passeraient, on reste les deux pieds sur notre montagne. Ça ne nous ébranle pas tant que ça. Parce qu'on a encore tellement de sécurité. On se sent tellement assuré. Allez, pire des cas, si je perds mon travail, j'ai quand même des sécurités, j'ai des garanties autour de moi. Si je tombe malade, je peux vite appeler et être soigné. Si je perds ma maison, elle est souvent assurée. Je peux la reconstruire, même si c'est ébranlant. Mais on a beaucoup de sécurité en France. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de voir ces sécurités s'effriter ? Les quelques derniers Noëls que nous avons passés ont été quelque peu ébranlés par les attaques terroristes, par les conflits sociaux, gilets jaunes, grèves, SNCF, pour ne parler que des Noëls, hein. Et puis plus récemment par un virus qui circule et qui fait les dégâts. Est-ce qu'on est autant en sécurité que cela? Est-ce que cela ne pourrait pas remettre en question nos montagnes? Sommes-nous sûrs de notre montagne et de ce sur quoi nous nous reposons? Et peut-être commençons-nous à réaliser que la vie est peut-être plus fragile qu'elle ne le semble. Et j'ai l'impression que les fêtes de cette année, perturbées, mais pour ceux qui ont quand même fait la fête, l'ont faite, mais quand même avec une inquiétude. On se demande ce que va être 2021, n'est-ce pas? Et on se demande sur plein de choses. On se demande quand les théâtres vont réouvrir. On se demande quand les restaurants vont réouvrir. On se demande même si nos métiers, les uns et les autres, vont tenir le coup. On se demande même si on ne va pas tomber malade. Peut-être certains c'est déjà fait, mais tout peut arriver et on ne sait pas trop où on va ici. Mais tout ceci pour nous mener petit à petit, je ne m'éloigne pas tant que ça, de notre texte d'Ésaïe, parce qu'un dernier point quand même. Allez, je pars du principe ce matin, vous regardant les uns les autres, je pars du principe ce matin qu'on sait tous ce que veut dire poser notre vie en Dieu. On a tous une autre ambition de la vie. Je pars du principe qu'on ne va pas se laisser si vite ébranler par le problème du travail, de la santé, de nos biens immobiliers, etc. Là, je veux dire, on sait qu'on peut mettre notre confiance dans le Seigneur, mais question. Et si, alors même qu'on se sait à notre juste place, alors même qu'on se sait conduit par Dieu, alors même qu'on sait que Dieu nous utilise là où nous sommes et qu'on peut vraiment se dire « Je suis où je dois être ». Et si ça était aussi ébranlé? Que penserions-nous? Quelle serait notre réaction? Parce que n'est-ce pas qu'on peut se dire « Oui, oui, Seigneur, regarde, c'est pas mon travail, c'est pas tout ce qui est matériel autour de moi, c'est même pas ma santé ». Mais Seigneur, tu ne vas quand même pas ébranler ce sur quoi je m'appuie, sachant que je le fais en toi. Est-il possible que je sois ébranlé jusqu'à ma propre vie chrétienne? En fait, je dis cela parce que dans le texte d'Ésaïe 54, il y a un contexte. Et le contexte, on pourrait le chercher à le comprendre en se posant la question, mais quelles sont les montagnes du peuple d'Israël au moment où Dieu parle? Quelle est l'assise qu'il pouvait avoir? Qu'est-ce qui peut être beau, majestueux, grandiose et qui émane le respect? Qu'est-ce qui pour eux peut avoir une telle valeur et une valeur qui même vient de Dieu lui-même? Une pensée? Qu'est-ce qui pour un enfant d'Israël peut être comme un don de Dieu, beau, majestueux, grandiose, un endroit où il règne le respect, un peu ce sentiment qu'on peut avoir quand on est au pied d'un massif montagneux. Une idée? Le temple. Le temple de Jérusalem, le temple de Salomon. Quel était peut-être plus grand que cela pour un enfant d'Israël? Et on voit les psaumes qu'on a lus tout à l'heure, les psaumes des montées, les pèlerinages qui se font, la fierté d'un enfant d'Israël de dire voilà ce que Dieu nous a donné. Et voilà même la promesse de l'endroit où Dieu est, l'endroit où on rencontre Dieu. C'est beau, c'est grandiose. Salomon n'est pas allé à demi-mesure. David non plus d'ailleurs en donnant les plans. Et on voit là tout ce qui pouvait se passer là-dessus. Et évidemment avec le temple, la ville de Jérusalem, souvent d'ailleurs appelée la montagne de Dieu, la Sion. Sans parler de cette terre promise. Ceux qui lisent ce texte originellement n'ont plus le temple. Le temple a été ébranlé. Jérusalem a été ébranlé. Il n'y a plus de terre d'Israël. Ceux qui reçoivent ce message sont exilés en Babylone. De quoi se poser des questions, n'est-ce pas? C'est une chose de perdre sa vie, de perdre les éléments de notre vie, mais Dieu, comment as-tu ébranlé là ce qui même est sur quoi on peut s'appuyer pour notre existence? temple inébranlable, et pourtant Dieu l'a ébranlé. Le lieu, par définition, on pouvait dire c'est là que Dieu réside, n'est plus. Pourquoi ? Une partie de la réponse sur laquelle je ne vais pas m'étaler, c'est que le temple n'était plus le lieu pour rencontrer Dieu, mais est devenu une fin en soi. Comme mon travail, comme mes possessions, comme ma santé, comme tant de choses qui deviennent une fin en soi et qui fait que la grandeur, la beauté, la magnificence et même le respect n'est plus là. Un petit peu comme si nous vivions une célébration de mariage et que tout soit dans la célébration, mais que très peu d'attention soit donnée à l'époux ou à l'épouse. Quel sens aurait cette cérémonie si ce n'est plus pour valoriser et pour montrer l'importance qu'a celui ou celle avec qui je vais unir ma vie? Eh bien, dans ce texte, Dieu dit que alors même que, même si nos montagnes s'ébranlent, même si le temple n'est plus là, même si ce sur quoi je m'appuie n'est plus là, eh bien, ce texte est en train de dire que Dieu va à l'essentiel de nos vies. L'essentiel, ce n'est pas le temple. L'essentiel, c'est la relation, la montagne spirituelle sur laquelle nous pouvons nous appuyer. Et dans ce contexte, Dieu promet sa fidélité, son amour, son engagement, son alliance, et ceci ne chancellera pas. Alors, évidemment, on pourrait poser ici une question. On pourrait poser une question parce que le contexte est large, mais simplement les versets qu'on a lus ce matin. Dans les versets que nous avons lus ce matin, on voit là deux allusions faites, le verset 8 et le verset 9. Dieu dit, dans un débordement d'indignation, « Je t'avais un instant dérobé ma face. » Dans le verset 9, « Il en sera pour moi comme au jour de Noé. » Qu'est-ce qui s'est passé au jour de Noé? On voit bien qu'un jugement est tombé sur le peuple, qu'un jugement est tombé sur la terre. Et on pourrait dire, et Dieu dit, « Mais voilà, ça a eu lieu, mais dans un instant, j'ai dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi. De même au jour de Noé, j'ai promis que ça ne se passerait plus, de ne plus m'indigner contre toi. Et quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, ma bienveillance sera toujours avec toi. » Je pense qu'une question légitime pour nous ce matin, c'est de se dire, Seigneur, ok, si du temps de Noé tu as fait cela, si même du temps de l'exil tu as fait cela, c'est possible que tu le fasses encore. C'est possible que peut-être nous vivions des temps compliqués, difficiles, ou parce qu'on n'a pas été à la hauteur, parce qu'on n'a pas été fidèle, parce qu'on n'a pas fait ce qui devait être fait, est-il possible qu'on reçoive quelque chose de ta part qui nous secoue fortement et qui ébranle le plus profond de nos vies? Réponse, non. Ce que Dieu est en train de dire ici, c'est que ce genre de choses n'arriveront pas. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il dit, alors même que les montagnes s'éloigneraient, ma bienveillance envers toi sera là. Ma bienveillance ne sera pas ébranlée, mon alliance de paix ne chancellera pas. Pourquoi? C'est quel chapitre d'Ésaïe qu'on est en train de lire là? 54. 54 est après 53. 53, ben relisons un bout, qui fait que Dieu peut dire ce qu'il dit. Ce n'est pas une parole en l'air qu'il est en train de donner. Il n'est pas en train de dire, oui, bon, ben voilà, selon les circonstances, ça se passera bien. Non, Dieu a posé quelque chose d'absolument fondamental. Ce qu'il a posé au chapitre 53, ce qu'il a annoncé au chapitre 53, vous et moi pouvons dire ce matin qu'il l'a réalisé. Ça a eu lieu. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? Il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence ni éclat pour que nous le regardions, et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on se voile la face, il était méprisé Nous ne l'avons pas considéré. Certes, ce sont nos souffrances, ou à cause de nos souffrances, qu'il a portées. Ce sont nos douleurs dont il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et le chapitre continue. Dieu est en train de dire qu'un homme va venir qui va s'appeler Jésus-Christ et qui va prendre sur lui tous les branlements des montagnes du monde et qui va les prendre sur lui afin que nous puissions avoir la certitude et la garantie totale que l'amour de Dieu ne sera jamais ébranlé pour ses enfants. C'est pourquoi ce que Dieu dit ici, dans ce petit refrain qu'on a chanté tout à l'heure, et ce que Dieu dit dans ce texte ici, nous montre que sa bienveillance ne sera à jamais ébranlée et que son alliance de paix ne chancellera jamais parce que en Jésus-Christ, absolument tout est accompli. Je relis la fin de ce chapitre. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été compté parmi les coupables, parce qu'il a porté le péché de beaucoup et qu'il a intercédé pour les coupables. Le chapitre 53 est suivi du chapitre 54, dans lequel il dit « Alors même que vous verriez le temple détruit, mon amour, ma bienveillance, mon alliance » sera à toujours avec vous. Alors même que oui, j'ai écarté mes yeux de vous pour un temps, je ne le ferai plus parce que maintenant, en Jésus-Christ, mon alliance est une garantie absolue et totale. Voilà comment nous pouvons entrer en 2021, chers frères et sœurs de la chapelle de Nesle. On ne sait pas ce qui est devant nous, mais ce qu'on sait, c'est que son amour, sa fidélité, sa bienveillance, son alliance sera à toujours ici. Alors je ne peux pas résister à dire qu'est-ce qu'il y a après le chapitre 54 ? 55, hein ? Vous avez vu comment commence le chapitre 55 ? Ô vous tous qui avez soif, venez vers les eaux. Même celui qui n'a point d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui n'est pas du pain? Pourquoi peinez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et mangez ce qui est bon, et vous vous délecterez de mets succulents, etc., etc. Christ est venu. Il a scellé la promesse que son amour ne s'éloignera jamais de nous et nous invite à venir et à venir célébrer dans sa présence. Waouh ! Moi, ça me plaît, ce programme pour 2021. Et j'espère qu'on peut aussi, tous ensemble, même si on a devant nous des choses peut-être difficiles et compliquées, est-ce qu'on peut s'exhorter les uns les autres et nous rappeler cela ? Peut-être même dans 15 jours, je vais être celui qui serait découragé. Est-ce que vous pourriez revenir voir Samuel, tu te souviens ce que tu as dit ? Carole le fait des fois. Il n'y a pas longtemps, Carole m'a dit, tu te souviens le sermon que tu as prêché il y a quelque temps ? Comment tu l'appliques dans ta vie? Aïe, 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 ça me fait du bien. Et on a besoin de se rappeler les choses et de s'exhorter. Et j'ai vraiment envie de dire, dans l'année 2020-21, pouvons-nous nous rappeler, nous exhorter et nous rappeler ces choses ici? Ce n'est pas juste une parole en l'air, ce petit verset. Ce petit verset qui devient une chansonnette, qui devient un cantique, ce n'est pas une parole en l'air. Certains textes dans l'Ancien Testament sont tirés hors de leur contexte et sont chantés et proclamés, et ça me gêne un peu. Là, si on regarde le contexte, on peut chanter ce chant. On peut vraiment chanter ce chant. Ce n'est pas un verset sorti de son contexte, ce n'est pas une parole en l'air, c'est une parole réalisée en Jésus-Christ. Et ce sont là les promesses de sa bienveillance qui sont fondées. Alors j'en termine ainsi. Puisse 2021 être pour nous l'occasion de célébrer, de nous réjouir de ce que Dieu a fait en Jésus-Christ et de ce qu'il va faire avec nous, pour nous, dans l'année qui vient, parce qu'il prépare quelque chose de magnifique. On ne sait pas ce qui nous attend. Et alors même que nos vies peuvent être ébranlées, alors même que notre univers peut s'ébranler, alors que peut-être même l'Église va être ébranlée, qui sait. Rappelons-nous que son amour ne le sera jamais, que sa fidélité ne le sera jamais, sa bienveillance ne le sera jamais, que son alliance ne le sera jamais. Amen. Oh, un peu mieux, hein. Amen. Allez, amen, on y croit, n'est-ce pas? Seigneur, merci pour ta bonté. Merci pour ce que tu nous annonces. Merci pour ce qui a été annoncé et qui s'est réalisé en Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que maintenant nous pouvons en effet nous fier à ta parole et y voir combien tu restes fidèle à ce que tu fais. Merci Seigneur parce qu'en ce temps de 2021, la bonne nouvelle n'est pas que l'année 2020 est terminée. Mais merci parce que la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est venu. Et que tu as tenu ta parole, et que tu la tiendras jusqu'au bout, et que nous pouvons aller dans l'année 2021, certes sans savoir ce qui va se passer, mais en sachant que rien ne pourra nous séparer de ta bienveillance et de ton amour. Alors Seigneur, ce matin, en te rendant ce culte, nous voulons venir avec ce que nous sommes, avec ce que nous avons, avec ce que nous n'avons pas, avec tout ce qui manque dans nos existences. Nous voulons venir avec nos montagnes, nous voulons venir avec tout ce que Seigneur tu nous as donné de vivre jusque-là et tout simplement te le présenter à tes pieds, te dire Seigneur, prends tout ça dans tes mains et fais-en quelque chose. Parce que rien d'autre ne peut compter dans nos vies que de nous savoir dans tes mains, que de nous savoir sous ton regard, que de savoir que alors même que tu vas ébranler nos vies, nous ne pouvons pas être ébranlés sur l'assurance, la certitude que ton amour ne s'éloignera pas de nous. Alors Seigneur, que ton œuvre se fasse ainsi au milieu de nous et que cette année qui est devant nous se passe comme une véritable année de bienfaits, de bénédictions sous ton regard. Et Seigneur, c'est avec foi que nous voulons entrer dans cette année et la vivre dans ta présence. La vivre en Église, la vivre pour ta gloire. Et nous te prions ces choses dans le nom de Jésus-Christ. Amen.